RCF.
S'il est bien un récit de fraternité dans le livre de la Genèse, c'est bien l'histoire de Joseph. Joseph, le fils préféré de Jacob, est détesté par ses frères. Violenté par eux, il refusera néanmoins de répondre à la violence par la violence, les amenant à faire la vérité sur leur méchanceté inhumaine. André Wénin, le récit de la Genèse au chapitre 37 dit « Jacob aimait Joseph plus que tous ses fils, ses frères le haïrent et ne pouvaient plus lui parler en paix ». En fait, tout commence par le favoritisme d'un père.
Oui, tout à fait. Ça commence par le favoritisme d'un père qui préfère son fils Joseph, qui est le dernier-né, ou quasiment le dernier-né. En fait, il a encore un frère qui est Benjamin, mais Benjamin est associé à la mort de Rachel, la femme aimée de Jacob, qui meurt en couche. Et donc, il reporte d'une certaine manière l'affection qu'il avait pour Rachel sur le fils qui lui rappelle le plus Rachel et qui donc est Joseph. Autrement dit, on pourrait dire que c'est un homme âgé déjà qui fait son deuil, qui cherche à faire son deuil en remplaçant sa femme bien préférée par un fils préféré.
Là encore, sentiment d'injustice de la part des frères.
Et c'est précisément ce qui va entraîner la jalousie des frères, ou plus exactement la haine de ses frères, qui ne pouvaient lui parler en paix. Mais lorsque vous lisez bien le texte, en fait, il y a une forme d'ambiguïté. On comprend spontanément que parce que Joseph est aimé par Jacob, les frères haïssent Joseph. Mais en fait, le pronom qui est utilisé est ambigu, et la haine peut très bien s'exercer non seulement vis-à-vis de Joseph, mais aussi vis-à-vis du père. D'ailleurs, dans la suite de ce chapitre 37 de la Genèse, on verra comment les frères successivement font souffrir Joseph et font souffrir leur père.
Nous connaissons l'histoire. Joseph va devenir un des hommes les plus importants d'Égypte. Joseph est un sage. Par exemple, quand il est accusé faussement de vouloir coucher avec la femme de son maître, il se tait. Donc il n'est pas dans la violence.
Non, mais pour ça, il faut peut-être remonter un tout petit peu en arrière, si je peux me permettre. Parce qu'en fait, au point de départ, donc j'ai montré comment Jacob et Joseph, Jacob fait souffrir ses fils, qui ressentent comme une injustice la préférence pour Joseph. Joseph, lui, il va rapporter des calomnies sur ses frères à son père pour se rapprocher de celui qu'il aime et s'éloigner de ceux qui le haïssent, comme un grand adolescent qui ne sait quoi faire parce qu'il est pris entre l'amour de l'un et la haine des autres. Et les frères eux-mêmes vont entrer dans la violence par rapport à Joseph et par rapport à leur père. Autrement dit, dans cette famille, au point de départ, tout le monde souffre et tout le monde fait souffrir les autres. Pourquoi ? Parce que chacun, d'une certaine façon, cherche à sortir de son problème. Jacob doit faire le deuil de sa femme, il aime Joseph.
Plus que les autres.
Plus que les autres, oui, justement, parce qu'il doit faire, c'est pour faire son deuil. Joseph, qui est un adolescent pris entre l'amour et la haine, se rapproche de son père. Il va raconter ses rêves à ses frères, peut-être pour renouer avec eux, mais il fait pire, parce que les frères le prennent très mal. Et finalement, les frères, pour sortir de leur problème, ils pensent qu'il faut éliminer Joseph, c'est ce qu'ils vont faire au chapitre 37.
La violence,
tout à fait. Et donc, là, on voit comment une violence non vue de la préférence du père va déboucher sur une violence vue, qui est se débarrasser du frère et faire souffrir le père en lui renvoyant la tunique baignée de sang pour lui laisser penser que Joseph a été tué par des fauves. Autrement dit, chacun cherche à se libérer de son propre problème et la façon qui est la sienne pour sortir de ce problème fait mal aux autres.
Il n'y a pas de parole aussi.
Et il n'y a pas de parole. Et donc, la scène que vous amenez, donc le chapitre 39, avec la femme de Putiphar.
Oui, on rappelle la scène.
Oui, donc c'est Joseph qui a été vendu comme esclave en Égypte, qui est devenu le numéro 2 de la maison, majordome plénipotentiaire de son maître Putiphar. La femme lève les yeux sur Joseph, veut coucher avec lui. Et au moment où la femme veut passer à l'acte, Joseph s'enfuit en laissant son vêtement. Et la femme a utilisé le vêtement comme pièce à conviction pour accuser Joseph d'avoir voulu la violence. Joseph, faussement accusé, va être mis en prison par son maître. Mais ce qui est intéressant dans cette scène, c'est que, comme dans la scène où Joseph est agressé par ses frères, Joseph, agressé par la femme et victime de son faux témoignage, va se taire. Et c'est ce silence de Joseph devant l'adversité est le symptôme de quelqu'un qui, d'une certaine manière, ne cherche pas à rendre violence pour violence. Et quelqu'un qui prend, d'une certaine manière, la violence sur lui et qui mûrit, en quelque sorte, une sagesse. Sagesse, d'ailleurs, qui va lui permettre de devenir le numéro 2 de l'Égypte, hein, lorsque il interprète correctement les rêves de Pharaon et lorsqu'il donne à Pharaon de bons conseils pour gérer la crise alimentaire longue que les rêves de Pharaon annonçaient.
Donc ce Joseph-là, il coupe un peu le cercle vicieux de répondre par la violence, de rentrer dans la convoitise, dans la jalousie, dans l'envie.
Tout à fait. Donc Joseph, c'est celui qui évolue d'une certaine manière à travers les épreuves de son existence. On voit à sa façon d'agir comment Joseph est celui qui cherche une réponse positive à la violence qui lui est infligée. Donc plutôt que de répondre à la violence par la violence, il répond, il cherche à sortir de la violence par le haut en devenant celui qui fait le bien pour d'autres.
Ce que vous expliquez, André Wénin, dans vos différentes publications où vous parlez de Joseph, c'est qu'il va amener petit à petit tous ses frères à prendre conscience du mal qu'ils ont fait. Donc, il l'avait vendu aux Égyptiens, il y avait eu la séparation avec le père, des souffrances infligées au père, à lui-même bien sûr, et que c'est lentement, dans un processus lent où il fait repasser ses frères par ce que lui-même a vécu, qu'il va faire sortir tout le monde par le haut.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est à la faveur de la famine que Joseph a annoncée. C'est une famine qui s'étend sur toute la terre. Donc on a faim aussi en Canaan. Donc Jacob envoie ses fils chercher du blé en Égypte. Et donc ils sont confrontés à un Joseph qu'ils ne reconnaissent pas. Joseph jouant lui-même l'inconnu. Et en jouant l'inconnu, en fait, on se rend compte assez rapidement qu'il met en place une sorte de pédagogie qui va permettre à ses frères progressivement de prendre conscience de ce qu'ils ont imposé à leurs victimes. Joseph va les mettre en prison pendant 3 jours sans qu'ils sachent ce qui va leur arriver, exactement comme les frères l'avaient mis dans un trou, en le laissant complètement à l'obscur de ce qui allait se passer.
Donc il lui fait vivre ce qu'il
voilà,
lui a vécu.
Exactement, donc il les oblige à vivre ce que lui-même a vécu. Autrement dit, il les met à la place de leurs victimes. D'ailleurs, quand ils sortiront de cette prison, ils vont dire « Nous nous sommes rendus coupables envers notre frère parce que nous n'avons pas écouté ses cris lorsqu'il nous suppliait. » Autrement dit, les frères vont prendre conscience, parce qu'ils vivent ce que leurs victimes ont vécu, vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait vivre. Mais en même temps, Joseph va les renvoyer chez leur père en exigeant qu'ils amènent leur petit frère Benjamin et en retenant un des fils en otage. C'est-à-dire qu'ils vont obliger les frères à affronter de nouveau leur père avec un fils en moins.
Le petit Benjamin qui est devenu le préféré.
Exactement, et donc ils vont les confronter de nouveau à la souffrance qu'ils ont imposée à leur père. Mais en faisant cela, donc en réclamant le petit préféré qui était resté avec son père, il sait qu'il met aussi le père à l'épreuve. Est-ce que le père va être capable de ne plus faire son deuil en accaparant un enfant pour combler son manque, mais va être capable de laisser Benjamin aller avec ceux qui sont pas seulement son fils, mais qui sont aussi ses frères. Et donc, on a dans cette histoire, la pédagogie de Joseph oblige les acteurs à repasser par les choix qui ont été des choix négatifs, à savoir préférer un des frères par rapport aux autres, à savoir se débarrasser d'un frère en croyant qu'on va... Donc voilà, il les fait repasser par là où ça a fait mal, en espérant que les frères vont habiter désormais ces lieux de manière positive, hein, et où ce frère et le père vont les habiter de manière positive, autrement dit, changer d'attitude. Et c'est ce qui va se passer. Jacob va accepter de laisser partir Benjamin, et les frères qui ont vécu l'expérience qu'ils avaient imposée à Joseph et qui ont vu la souffrance de leur père vont eux-mêmes prendre conscience qu'ils doivent agir autrement vis-à-vis de Benjamin. Ils vont se montrer solidaires par rapport à Benjamin et ainsi se montrer dignes de la confiance de leur père, qui lui-même d'ailleurs les a laissés partir en disant « Et moi, puisque je suis sans enfant, je suis sans enfant. » Autrement dit, le père qui accepte son manque. Et donc qui accepte aussi de faire son deuil tout seul comme un grand, si je peux dire. Et là, il y a un rôle tout à fait fondamental qui est celui de Judas. Judas qui va faire précisément comprendre à son père que à vouloir continuer son petit jeu en comblant son manque avec son fils, eh bien, il est en train d'envoyer toute la famille à la mort.
Ce qui est intéressant dans toutes les histoires que l'on prend avec vous, c'est qu'on se rend compte que ça part toujours d'un refus du manque qui va créer donc de la convoitise et de la violence.
Absolument.
C'est toujours la même histoire.
Je crois que c'est vraiment la base continue de la Genèse. Donc comme s'il fallait que le lecteur, quand il sort de la lecture attentive de ce texte, se rende compte véritablement de ce qui empoisonne la possibilité de devenir un être humain à part entière, c'est-à-dire un être humain capable de relations justes avec les autres, et les premiers autres étant les parents et les frères. Autrement dit, prendre conscience de cette convoitise qui prend des formes différentes, qui épouse des contours différents en fonction du type de relation dans laquelle elle se joue. Pourquoi cela, je pense, pour rendre le lecteur lucide par rapport à ce que lui-même vit dans ses relations et à réfléchir ses échecs relationnels à la lumière que lui offre la Genèse pour tenter de lui ouvrir les yeux, en quelque sorte, de le rendre lucide de telle sorte que s'il a l'habitude de foirer ses relations, eh bien, il cherche à comprendre pourquoi éventuellement et qu'il trouve les ressources pour changer d'attitude, pour, on pourrait dire, se convertir.
Ça va jusqu'au pardon pour l'histoire là, de Joseph. Il y a un pardon.
Absolument, il y a un pardon parce que Joseph, une fois que ses frères vont à travers leur manière de vivre, d'agir, avec leur petit frère Benjamin, va comprendre que désormais ils sont prêts à vivre la fraternité, et Joseph va d'une certaine manière passer sur leur faute et leur rendre la possibilité cette fois-ci d'échapper à la famine, c'est-à-dire cette fois-ci d'échapper au manque. Remarquez que c'est pas un hasard, c'est le processus qui permet tout ce chemin, c'est un manque, il manque de pain. Sauf que l'homme ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de fraternité. Et le manque de pain va précisément être le lieu qui va être le lieu où le manque de fraternité va pouvoir être. Alors une fois que les frères auront montré à Joseph qu'ils sont prêts à la fraternité, alors Joseph peut tomber le masque et se faire reconnaître et les inviter à venir s'installer en Égypte.
Nous terminerons demain. Merci André Wénin.